d'abord les deux textes liturgiques de cette fête de l'Épiphanie, l'épître tirée du livre d'Isaïe. Lève-toi, resplendis Jérusalem, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi se lèvera le Seigneur et enverra sa gloire en toi. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur de ton aurore. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Toute cette foule rassemblée vient vers toi et te viendra des fils et des filles de près et de loin. Alors tu connaîtras l'abondance. Ton cœur sera ravi de joie et d'admiration à la vue des peuples et de la mer se tournant vers toi et de la force des nations venant à toi. Tu seras comme inondé par les troupeaux de chameaux, couverte par les dromadaires de Madian et d'Épha. Tous ceux de Saba viendront offrir l'or et l'encens en chantant les louanges du Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Jésus étant né à Bethléem de Juda, au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient vinrent à Jérusalem, disant : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et rassemblant tous les princes des prêtres et les scribes du peuple, ils s'enquirent d'eux où devait naître le Christ, et lui dirent à Bethléem de Juda. Car voici ce qui a été écrit par le prophète : « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui doit régir Israël, mon peuple. » Alors Hérode, ayant pris les mages en particulier, s'informa d'eux avec soin du temps où l'étoile leur était apparue. Puis les envoyant à Bethléem, il dit : « Allez, informez-vous exactement de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi aussi savoir afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Lorsqu'ils eurent entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. Lorsqu'ils virent l'enfant, ils furent transportés de joie et entrèrent dans la maison. Entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ayant reçu en songe l'avertissement de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Veuillez vous asseoir. Donc je vous rappelle que nous aurons donc des retraites pour cette année 2021. À mesure on peut les prêcher avec tout ce qui nous arrive. Et les soubresauts de Covid-19. Vous avez la liste des retraites pour 2021 sur le site internet. Première retraite pendant la semaine sainte du 29 mars au 4 avril. Puis une deuxième retraite du 26 avril au 1er mai, puis du 7 juin au 12 juin, du 13 septembre au 18 septembre et du 18 octobre au 23 octobre. Donc ceux qui sont intéressés, pensez à vous inscrire avant le dernier moment. Je ne peux pas prendre plus de 6 personnes, ou 5 ou 6 personnes dans le gîte que je loue pour les circonstances. On essaiera de chanter un chant après la messe. Donc, j'ai mis les anges de nos campagnes, là, un chant traditionnel pour la fête de Noël. Bien qu'il nous manque des membres de la chorale, on va faire ce qu'on peut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, on ne réalise pas toujours que cette fête de l'Épiphanie est plus importante que la fête de Noël. Ça semble étrange. Quand je dis aux fidèles, en général, ils sont toujours très étonnés. Dans la classe des fêtes, qui est assez compliquée dans l'Église catholique, la fête de l'Épiphanie est au-dessus de la fête de Noël. La fête de Noël, c'est une fête de première classe, double première classe avec une octave de troisième ordre, alors que la fête de l'Épiphanie est un double de première classe avec une octave de deuxième ordre. Et au-dessus, il y a les deux fêtes les plus importantes toute l'année, Pentecôte et Pâques. Fête de première classe, double de première classe avec octave de premier ordre. Donc la fête de l'Épiphanie est au-dessus de la fête de Noël. Avant, c'était une fête d'obligation. En France, Et que les vicissitudes des concordats, malheureusement, ce n'est plus une fête d'obligation, donc on fait la solennité le dimanche qui suit, donc aujourd'hui. Pourquoi cette fête est-elle tellement importante? Le mot épiphanie explique tout. Épiphanie, ça veut dire manifestation. C'est la manifestation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et, attention, la divinité de l'Église. On ne peut pas séparer les deux choses. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour fonder une Église. Comme il n'y a qu'un seul Dieu, une seule divinité, il y a donc une seule Église. Une seule Église divine. De même qu'il y a des tas de faux dieux et un seul vrai Dieu, de même il y a des tas de fausses églises et une seule véritable Église. Alors, comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa divinité? Eh bien, par les trois dons, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or au roi, l'encens au Dieu, la myrrhe à l'homme. Les pères de l'Église expliquent aussi que l'or est le symbole de la sagesse, l'encens symbole de la prière et la myrrhe symbole de la vertu de pénitence. Mais l'Église enseigne aussi que cette fête est également le symbole de la divinité de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que c'est en un 6 janvier, 3 années différentes bien sûr, que 3 fois notre Seigneur a manifesté sa divinité. D'abord bien sûr par la visite des mages, qui sont venus chercher le grand roi et l'ont adoré pour bien montrer qu'ils voyaient en ce roi le sauveur du monde, le créateur du ciel et de la terre, ce qui est admirable de la part des rois mages qui étaient à l'époque encore des païens. Mais c'est aussi en un 6 janvier que notre Seigneur Jésus-Christ a fait son premier miracle, Cana en Galilée. Il a changé l'eau en vin devant les disciples et, nous dit l'Évangile, ses disciples crurent en lui. Et enfin, c'est aussi l'année suivante, en un 6 janvier, que notre Seigneur Jésus-Christ était baptisé dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Et une voix s'est fait entendre du ciel, les ciels se sont ouverts, une voix s'est fait entendre qui disait, Dieu le Père qui parlait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances. Écoutez-le. Les manifestations de la Sainte Trinité, parce qu'en plus une colombe est venue volter au-dessus de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, qui symbolisait le Saint-Esprit. Et donc une manifestation encore extraordinaire en un 6 janvier de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors essayons un petit peu de mettre tout ça en union, d'unir un peu tous ces points. La fête de l'Épiphanie est certainement une des fêtes les plus riches de l'année. En matière liturgique, il ne faut pas séparer les trois dons. C'est la première chose très importante à comprendre. L'or, l'encens et la myrrhe. Parce qu'il y a des petits malins qui vont dire, bon, moi je vais aller voir notre Seigneur, mais je lui donne certaines choses, pas tout. On ne peut pas donner simplement, par exemple, l'encens et la myrrhe, refuser l'or. Parce que si je refuse l'or, si je refuse de donner l'or à notre Seigneur Jésus-Christ, je refuse sa royauté. Si je refuse sa royauté, dans la pratique, je dis qu'il n'est pas Dieu. Donc je refuse la divinité. Je ne peux pas refuser de donner l'encens à notre Seigneur Jésus-Christ. Les petits malins qui vont vouloir donner simplement l'or et la myrrhe. Mais si je refuse l'encens, je refuse la divinité. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être vraiment roi s'il n'est pas vraiment Dieu. Puisqu'il est roi comme créateur et comme rédempteur. Et donc il y a aussi les petits malins qui vont donner l'or, l'encens, mais pas la myrrhe. Ils ne veulent pas donner la myrrhe parce que la myrrhe, c'est le symbole de l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne veulent pas des souffrances de la passion. Donc ils refusent la rédemption. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous racheter par les souffrances de la croix. Et donc, refusant la rédemption, on refuse dans la pratique la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par son humanité, meurt pour nous sauver. Donc il faut donner les trois dons. Et celui qui ne donne que un ou deux dons sur les trois, dans la pratique, refusant de donner un des trois dons, récupère les deux premiers dons qu'il a donnés. Vous voyez comme toutes ces choses sont tellement importantes. Nous aider à comprendre toutes ces choses, justement pour récupérer, pour accepter la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, ben, on va suivre Hérode. Et qu'est-ce qu'il fait Hérode? Il se renseigne sur notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement lui avait été averti par l'arrivée des mages, mais en plus, il avait tous les scribes qui avaient bien expliqué que le roi des rois devait naître à Bethléem de Judée. Eh bien, au lieu de chercher notre Seigneur Jésus-Christ qui s'annonce, eh bien, il cherche pour le tuer. Et ça montre très bien que devant la fête de l'Épiphanie, devant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a deux réactions. Tout le monde cherche notre Seigneur Jésus-Christ, tous les hommes. Certains pour l'adorer, certains pour le tuer. Alors, si je vis un tas de péchés mortels dans la pratique, c'est comme si je cherchais notre Seigneur Jésus-Christ pour le tuer. Si au contraire, je vis dans le péché mortel, je cherche notre Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer. Et si j'ai cherché notre Seigneur Jésus-Christ pour le tuer parce que j'ai vécu dans le péché mortel, le bon Dieu nous donne justement les sacrements de pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie, la Sainte Messe, pour nous aider à changer littéralement notre fusil d'épaule et adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que j'ai trouvé notre Seigneur Jésus-Christ, encore un point capital dans la fête de l'Épiphanie, la dernière phrase de l'Évangile. Après avoir trouvé notre Seigneur, qu'est-ce que font les rois mages? Ils retournent chez eux par un autre chemin. Les pères de l'Église insistent beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire cet autre chemin? Ça veut dire qu'une fois qu'on a retrouvé notre Seigneur Jésus-Christ par une bonne confession, une bonne communion, une retraite, que sais-je, on n'a pas le droit de continuer de vivre comme avant. Il faut changer de vie. Et les rois mages ont changé complètement de vie. C'est pour ça qu'ils retournent chez eux par un autre chemin, avertis par un ange que le roi Hérode cherchait à tuer notre Seigneur. Donc ils repartent par un autre chemin. Cet autre chemin, c'est le symbole de la conversion personnelle. Et cela va entraîner une conversion extraordinaire pour les rois mages qui seront baptisés plus tard par l'apôtre Saint Thomas. Saint Thomas va pouvoir retrouver les rois mages et les baptiser. Ils vont mourir tous les trois martyrs. Cathédrale de Cologne, en Allemagne. Vous verrez les corps des rois mages sont là-bas, dans un sarcophage très ancien, à l'intérieur même de la cathédrale de Cologne. Alors essayons de creuser un petit peu. La première des choses, c'est donner l'or. L'or, c'est le symbole de la royauté et de la sagesse, disent les pères. Symbole de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout le Christ-Roi. Oui, il y a un lien extraordinaire entre la fête de l'Épiphanie et la fête du Christ-Roi. Fête de l'Épiphanie au début de l'année liturgique, fête du Christ-Roi à la fin de l'année liturgique, puisque la fête du Christ-Roi, c'est le dernier dimanche d'octobre. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi, par nature, parce qu'il est créateur, et par droit de conquête, parce qu'il est rédempteur. Alors attention, encore une fois, il faut faire attention à ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de dire « Ah, moi, je reconnais la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, mais attention, monsieur l'abbé, il ne faut pas mélanger l'Église et la politique. » Si vous refusez de mélanger l'Église et la politique, vous refusez la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, attention. Parce que la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement roi au ciel, il est roi dans la société, royauté sociale, règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien sûr, il doit y avoir une union entre l'Église et la politique. Où les gens nous disent, on entend ça très souvent, même des catholiques, « Monsieur l'abbé, moi je veux bien la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, mais attention, hein, il faut bien distinguer les choses. » Et, tant que je retrouve mon point, là, j'ai perdu mon... Excusez-moi. Il faut séparer l'Église et l'État. Rappelez-vous, l'enseignement de l'Église, je ne vais pas y revenir parce que j'en ai déjà souvent parlé, l'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme sont unis. De même que notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique, doit imprégner la politique de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la politique touche justement la façon de vivre des gens. Qu'est-ce qui se passe en France? Il y a encore des gens catholiques dans le secret de leur cœur, sans doute. Mais dans la pratique, la politique gouvernementale est une politique totalement anti-catholique. Donc la politique enlève à notre Seigneur Jésus-Christ tous ses droits. Alors, comment cela se traduit-il? Eh bien, les anciens, les premiers grands hérétiques sur le sujet, c'est surtout ce qu'on appelait les catholiques libéraux, condamnés par l'Église, autour des années 1830, autour de l'Amenée. Et leur formule, c'était l'Église libre dans l'État libre. C'est ça le refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils refusaient de donner l'or à notre Seigneur Jésus-Christ en disant Église libre dans l'État libre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, nous, dans l'Église, on fait ce qu'on veut et on vous laisse faire tout ce que vous voulez dans l'État. Surtout pas d'union entre l'Église et l'État. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, dans l'État, faites ce que vous voulez, vous êtes indépendant, vous êtes autonome, et vous nous laissez la liberté dans l'Église. Eh bien, ça a été condamné par l'Église. Condamné par l'Église pour bien nous montrer que notre Seigneur Jésus-Christ doit insuffler toute la politique du pays. Et si ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ qui influence la politique du pays, bien évidemment, comme la nature horreur du vide, c'est le démon qui va prendre la place. Et donc, contre ce qu'on appelle le libéralisme c'est ça, libéralisme c'est quoi? C'est donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, donner les mêmes droits à toutes les religions. Bien, contre ce libéralisme, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la première manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, les rois mages qui arrivent, pour donner l'or. Et donc, c'est l'arrivée des rois mages qui cherchent le grand roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient, nous savons que nous devons venir l'adorer. Donc, ces païens voient un enfant et reconnaissent en cet enfant un roi qui règne, un Dieu qui sauve, et un homme, parce qu'il va sauver, ce Dieu va sauver les hommes par une humanité souffrante. C'est tout le mystère de la rédemption qui est derrière. Ça ne suffit pas, encore une fois, de donner l'or. Il faut aussi donner l'encens. L'encens, c'est le symbole de la prière. Symbole de la divinité. On prie Dieu. C'est le symbole de l'adoration, la prière d'adoration, se mettre à genoux comme ont fait les rois mages, et s'agenouillèrent. Ils se prosternèrent pour l'adorer, parce qu'ils ont reconnu la divinité. Et donc, comment le monde moderne refuse-t-il de donner cet encens à notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, c'est par l'écuménisme. L'écuménisme fou, aujourd'hui pratiqué dans l'Église de Vatican II, par M. Bergoglio, c'est cet écuménisme qui est la négation formelle, officielle, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si je nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en conséquence, je serai obligé de nier aussi la divinité de l'Église catholique, puisqu'il y a un lien entre les deux, on ne peut pas séparer ce que Dieu a nié. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre pour fonder une Église. Et de même qu'il n'y a pas de salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique, c'est la même chose. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Et donc, contre cet écuménisme complètement hérétique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la deuxième chose importante qui s'est passée un 6 janvier, le baptême de notre Seigneur. Le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, ou baptême de Saint Jean, par Saint Jean-Baptiste de notre Seigneur Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain, notre Seigneur institue, sacramentalise le baptême. Saint Jean-Baptiste ne donnait qu'un baptême de pénitence. Notre Seigneur Jésus-Christ va transformer ce baptême de pénitence, va en faire un sacrement qui ouvre les portes du ciel. Puisque le sacrement de baptême va donner la vertu de charité. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément dans son évangile, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. C'est bien pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a choisi de nouveau cette date du 6 janvier pour justement le baptême dans les eaux du Jourdain, pour bien nous montrer qu'il fallait la foi, ce sacrement de baptême, pour éliminer les tentations d'écuménisme fou d'aujourd'hui. Tous ces gens qui croient qu'on peut se sauver dans n'importe quelle religion, qu'il n'y a pas de différence entre les dieux, entre les religions. Et enfin, il faut également donner la myrrhe. Il ne suffit pas de donner l'or et l'encens, il faut la myrrhe aussi. La myrrhe, symbole de la vertu de pénitence. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous sauver en prenant notre humanité, mais il a voulu une humanité souffrante. Il n'avait même pas un oreiller pour poser sa tête. Et il nous montre l'exemple dès le début en naissant dans la pauvreté de la crèche. Et contre ce refus de donner la myrrhe. La myrrhe, c'était un parfum utilisé par les anciens pour dessécher les corps, garder les corps après les enterrements sans trop de corruption. Et donc on oignait de myrrhe les corps des défunts. Donc ça représente la nécessité de faire pénitence. Et contre cette myrrhe, quels sont les gens qui refusent la myrrhe? C'est tous les gens qui sont sur la terre pour jouir, pour jouir au maximum de tous les biens de ce monde. Hein, c'est ce qu'on appelle l'hédonisme ou l'épicurisme, c'est la même chose. On est sur la terre pour jouir, d'après les modernes. Ceux qui disent ça, c'est tout le monde moderne qui nous entoure. On est sur la terre pour jouir, jamais souffrir, jamais mourir. Ceux qui disent ça sont ceux qui refusent de donner la mire à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la mire nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ a eu une humanité souffrante, qu'il a voulu souffrir. Pas simplement venu sur la terre, comme ça, pour un petit peu comme un ange incarné. Il a voulu prendre notre humanité. Il a voulu être obéissant. Non seulement obéissant jusqu'à la mort de la croix à son Père, à Dieu le Père, mais obéissant même à son Père putatif ici-bas sur la terre. C'est Jésus l'a fait de la Sainte Famille. La Sainte Famille nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il est le roi des rois, alors qu'il est le roi des cieux, alors qu'il est le créateur et rédempteur, il a voulu naître dans une famille humaine. Il a voulu naître dans une famille avec un chef de famille qui était bien moins saint que lui, Saint Joseph. Il a voulu recevoir toute son humanité d'une femme extraordinaire, l'Immaculée Conception, mais qui était encore une fois bien moins sainte que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre Sainte Vierge Marie est Immaculée Conception, mais n'est pas Dieu. Vous voyez comme c'est important. Et contre cette hédonisme, cet épicurisme qui consiste à vouloir jouir sans entrave, ça c'est la grande règle, c'était déjà le grand laïus de la Révolution 1968. Jouir sans entrave. Il est interdit d'interdire, c'est ce qu'on disait en 68, ce que les fous modernes disaient déjà en 1968. Jouir sans entrave. Eh bien, en quoi ça consiste justement à refuser, comment on lutte contre ce refus de la mire? On refuse la mire, c'est la troisième preuve de la divinité de l'Église catholique, le miracle de Cana. Je veux dire, quel est le rapport entre Cana et le refus de la mire? Parce que Cana, c'est l'institution du mariage. C'est à Cana que notre Seigneur Jésus-Christ a sacramentalisé le sacrement de mariage, comme il a sacramentalisé, donné le sacrement de baptême, au baptême, lorsqu'il s'est fait baptiser par Saint Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. C'est également un 6 janvier que notre Seigneur Jésus-Christ, en assistant à ses noces de Cana, en changeant l'eau en vin, a institué, a sacramentalisé, a donné le sacrement de mariage. Et le sacrement de mariage, c'est quoi? C'est justement le refus de cet hédonisme, de cet épicurisme dans lequel les gens veulent vivre aujourd'hui. Le sacrement de mariage, c'est quoi? C'est l'union d'un homme et d'une femme pour toute la vie, dans l'unité, dans l'indissolubilité, avec l'acceptation des enfants. Donc la fin première du mariage chrétien, c'est la procréation, l'éducation des enfants, et non pas la jouissance. Et on voit très bien que dans le monde moderne, on a séparé complètement l'acte conjugal de la procréation, justement pour pouvoir jouir sans entrave. Eh bien, contre ça, vous avez l'institution du mariage chrétien. Et pour bien nous montrer un autre lien, le bon Dieu n'a pas simplement institué le mariage chrétien le jour du miracle de Cana. Il a aussi changé l'eau en vin, le même jour. Pourquoi? Parce que si c'est le mariage de Cana, c'est l'institution du mariage chrétien, le changement de l'eau en vin indique l'arrivée de la messe. Il n'est pas arrivé à ce moment-là. Notre Seigneur Jésus-Christ va instituer son sacrifice de la messe à la fin de sa vie terrestre, le jeudi saint. Alors que le miracle de Cana, c'est au début de sa vie publique, 3 ans auparavant. Et notre Seigneur Jésus-Christ, justement, en changeant l'eau en vin, va annoncer un changement encore plus extraordinaire, la transsubstantiation, le changement de la substance du vin en la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il annonce le changement de la substance du pain en la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, avec le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Vous voyez, tout cela nous aide à comprendre l'importance de cette fête. C'est certainement une des fêtes liturgiques les plus importantes de l'Église catholique. C'est tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc le combat dans lequel nous sommes, et Nous voyons très bien, pas besoin d'être un prophète pour voir que 2021 va devenir une année, est devenue déjà une année cruciale avec tout ce qui se passe dans le monde moderne, tout ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France avec une espèce de tyrannie gouvernementale de plus en plus forte. C'est un combat terrible entre ceux qui veulent le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, les catholiques, et ceux qui veulent le règne social du démon. Ceux qui veulent suivre notre Seigneur Jésus-Christ, les rois mages, les bergers, les anges, aller adorer notre Seigneur dans la crèche, et ceux qui veulent suivre le mauvais exemple de Judas, le mauvais exemple de Gestas, le mauvais larron, et surtout le mauvais exemple donné par le roi Hérode. Le roi Hérode, qu'est-ce qu'il fait? Il se renseigne sur notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que vous le retrouvez, revenez me voir pour que moi aussi je l'adorais. Mensonge. Et quand il se rend compte qu'il a été floué par les rois mages, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses soldats pour assassiner tous les enfants de moins de 2 ans de la région de Jérusalem, pour essayer de se débarrasser de ce contradicteur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce que fait la France politique d'aujourd'hui. Éliminer notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, l'exemple vient de haut, puisque le plus grand ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ, pour moi, ce n'est pas M. Macron. Hein. Le plus grand ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est M. Bergoglio à Rome, qui a un pouvoir encore bien plus grand que M. Macron. M. Macron utilise son pouvoir pour essayer d'éliminer notre Seigneur Jésus-Christ, détruire la famille, mais Bergoglio a une responsabilité bien plus grande encore. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut faire ce qu'ont fait les rois mages, revenir chez nous en prenant un autre chemin. Revenir chez nous en ayant changé de vie, puisque nous avons la grâce de pouvoir assister à la Sainte Messe. La Sainte Messe, c'est quoi? C'est le changement de l'eau, du vin au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Messe, c'est le renouvellement non sanglant, sacrifice de la croix. La Sainte Messe, c'est l'application de la vertu de charité qui est donnée par le baptême. Et donc, c'est en quelque sorte quelqu'un qui meurt de faim, qui peut accéder à un repas pour retrouver ses forces. Il doit retrouver ses forces et après repartir dans le monde moderne, parce que vous ne savez pas quand vous pourrez revenir. Peut-être que vous ne pourrez pas avoir de messe avant dimanche prochain, bien qu'il y ait la messe tous les jours ici à 10 h. Ce n'est pas toujours possible de venir à la messe tous les jours. Ceux qui le peuvent le font, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, la force, elle est là. Notre Seigneur Jésus-Christ, par cette fête de l'Épiphanie, nous rappelle qu'il est Dieu, homme et roi en même temps. Il est un Dieu souffrant et qui règne sur la terre, qui veut régner sur la terre, qui veut régner dans nos cœurs, qui veut régner dans nos intelligences, qui veut régner dans nos volontés, même si, hélas, l'immense majorité de ses propres créatures ont aujourd'hui perdu la foi. Ton Seigneur l'a dit, à la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi? Et que sans une intervention divine, même les élus pourraient se faire rouler. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a prévenu aussi qu'il y aurait un petit troupeau qui resterait. Un petit troupeau, même si humainement parlant, on voit très bien que l'Église catholique est en train de se réduire comme une peau de chagrin, littéralement. Quelques familles, quelques âmes catholiques par-ci, par-là dans le monde qui gardent encore la foi, quelques milliers de personnes peut-être en France. Notre Seigneur Jésus-Christ est toujours Dieu. Parce qu'il est toujours roi, il est toujours homme souffrant, et il est toujours et Dieu, roi et homme. Voilà la grandeur de la fête de l'Épiphanie. La fête de l'Épiphanie doit nous donner une force extraordinaire, parce que cet enfant qui apparaît, humainement parlant, totalement impuissant, en fait, doit nous donner une force divine qui est liée au fait qu'il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Cet enfant nouveau-né, bien qu'il soit homme, est aussi la deuxième personne de la Sainte Trinité. Comme ils disent les pères, Marie portait l'enfant. Mais en fait, c'était l'enfant qui portait Marie. L'enfant qui portait Marie parce que cet enfant est le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, fait homme par amour pour nous. Alors, on ne comprend pas toujours pourquoi tous ces mystères. La Sainte Vierge Marie elle-même n'a pas tout compris. Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse.
me dit l'Évangile. Cette Sainte Vierge Marie n'a pas tout compris, alors qu'elle est Immaculée Conception, la Mère de Dieu. Soyez pas surpris, mais bien chers frères, si vous et moi, on a parfois un peu de mal à comprendre aussi les choses. On peut se dire, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas un grand miracle, convertit tout le monde, et puis qu'on ait un Saint Emmanuel Macron à la tête du pays, ça arrangerait bien les choses quand même. Notre Seigneur a d'autres idées. Sainte Vierge Marie, peut-être que Saint Joseph se sont dit, quand même, hein, naître dans une crèche comme ça, dans le froid, dans la misère. Et puis, on va être obligé de partir, il faudra aller dans un pays de païens, chez les Égyptiens, là, pendant plusieurs années. Pourquoi est-ce que notre Seigneur ne fait pas un grand miracle? Non. Notre Sainte Vierge Marie n'a pas eu de doute en disant, peut-être que je me suis trompé. Et non, elle conservait toutes ces choses dans son cœur. Il faut faire pareil. Nous aussi méditer, utiliser la Sainte Communion, utiliser la Sainte Messe pour nourrir notre âme de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dire au bon Dieu, oh mon Dieu, je crois, mais augmenter ma foi. J'espère, mais augmenter mon espérance. Je vous aime, mais augmenter la vertu de charité en moi. N'oublions pas que cette foi, cette espérance, cette charité, ces trois vertus théologales, elles vont rentrer dans notre cœur par l'intermédiaire de celle que le bon Dieu a choisie comme mère, la Sainte Vierge. Donc derrière la fête de l'Épiphanie, il y a toute l'influence de la Sainte Vierge qui est là. C'est elle qui enveloppe l'enfant Jésus de l'ange. C'est elle qui le place dans la crèche. C'est elle qui va le présenter au roi mage. C'est elle qui va le présenter au berger. C'est elle qui va présenter son enfant divin à chacun d'entre nous. Et en acceptant pour son fils l'or, l'encens, la vie et la myrrhe, elle dit à ses rois mages qui sont encore des païens, cet enfant, il est roi. Donc j'accepte pour lui l'or. Il est Dieu, donc j'accepte pour lui l'encens. Il va souffrir sur une croix, donc j'accepte pour lui la myrrhe. Nous aussi, nous devons accepter les trois choses. Et donner ces trois dons à notre Seigneur Jésus-Christ, n'oublions pas que ces trois dons, il faut les donner à la très sainte Vierge Marie, parce qu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.